I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de quoi ? On va parler de réalité virtuelle. Oui, et on oui, va parler de réalité.
Qui va nous en parler, Erwan ?
Je ne sais pas, un invité spécial, quelque chose. On va parler de Mario Party, on va parler de My Memory of Us et on va aussi causer un petit peu du petit jeu qui sort la semaine prochaine, le 26 octobre. On va parler un petit peu de Red Dead Redemption 2. Avant d'en parler plus longuement, évidemment, quand on y aura vraiment beaucoup joué. Et puis c'est tout pour... vous connaissez le reste du programme, le Comme la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Ils sont là, ils sont toujours là, ils sont au rendez-vous. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, des croissants. Bonjour Corentin.
Ça fait 2 mois qu'on n'est pas sorti du studio, j'aimerais qu'on nous apporte à manger et à boire, s'il vous plaît. Merci.
Non mais ce sacrifice t'honore, tu sais, c'est... Tu resteras
sacerdoce.
Voilà, les gens se souviendront de ce sacrifice, Corentin. On commence avec toi, Patrick. Oui. Tu continues à nous parler de Telltale.
Eh ben oui, parce que c'est des nouveaux rebondissements. Alors attention, parce que ce qui m'inquiète, c'est que finalement, les rebondissements autour du développement de la prochaine ou dernière saison deviennent presque plus intéressants que le jeu en lui-même, ces temps-ci. Donc, on rappelle les dernières infos qui n'étaient pas très joyeuses. La fermeture de Telltale, beaucoup de gens licenciés, c'était vraiment pas funky ces dernières semaines. J'en avais parlé la semaine dernière, donc Skybound Games, donc c'était c'est le studio notamment de Robert Kirkman, qui est l'auteur de la série de comics, était en tout cas en négociation pour reprendre la série. Et là, on vient d'avoir j'ai lu ça ce matin sur Gamekult, on commence à avoir des éclaircissements, des précisions sur la suite des événements. Les deux premiers épisodes de l'ultime saison étaient sortis sur les boutiques en ligne. On attendait un peu de savoir ce qui allait se passer après la casse du studio Telltale. Donc, ce qu'on a appris via Ian Ho, qui est le PDG de Skybound, on en sait un petit peu plus. On sait que l'épisode 3 était quasi fini.
Oui.
Lorsque le studio a fermé. Et lui, il a bon espoir, si tout se passe bien, de pouvoir le sortir avant la fin d'année, d'ici la fin d'année. Mm-hmm. Donc on aurait donc le troisième épisode d'ici fin 2018, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, pour l'épisode 4, ça semble plus compliqué, puisque d'après ce qu'on apprend, l'ultime épisode était en pré-production. En moment de la fermeture, ce qui est logique sur un jeu par épisode, on travaille comme ça en flux tendu. Donc, a priori, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aura une quarantaine d'employés, d'ex-employés tels qui auraient été contactés pour travailler sur cette finalisation de l'ultime épisode. Et donc, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Pas de date, donc pour l'instant,
sachant
précise.
Sachant que cet ultime épisode, ce sera quand même le series final. Quoi.
C'est The Walking Dead, mais qui porte vraiment bien son nom. Il y a un côté... C'est pour ça que c'est même fascinant de voir ce qui va se passer, de suivre un peu cette fin de saison.
Est-ce
qui arrive
à... Clémentine va mourir à la fin ? C'est quand même la grande question.
C'est pas important, je trouve.
C'est pas
forcément... Non, ce qui est important, c'est ce que ça va transmettre, c'est le ressenti.
Bien sûr.
Mais The Walking Dead s'est fait connaître pour des sortes de climax émotionnels qui étaient assez inédits.
Ça sera pas anodin, quoi.
Ils doivent finir sur un truc hyper fort.
Bah oui,
c'est
parce
obligé.
Que ça va tellement embarquer même d'émotions par rapport au studio. C'est un point final. C'est toujours important de pouvoir mettre un point final. Je pense que l'écriture va aussi le prendre en compte. Qu'on n'est pas sur une fin de saison classique. On est quand même sur le point final d'un studio. C'est pas rien. Et puis, a priori, il y aura le retour très rapidement des épisodes 1 et 2 qui a priori était sorti des boutiques en ligne avec les complications qu'on pouvait imaginer. Tout ça va se remettre en place, donc a priori il y a vraiment des fortes chances qu'on ait le fin mot de l'histoire. Une autre bonne surprise, on vient d'apprendre que Muriel Tramis aurait la remise de sa Légion d'honneur dans le contexte de la Paris Games Week.
Est Muriel Tramis?
Voyons, mais c'est une personnalité. Non, c'est une très bonne nouvelle qu'elle soit décorée de la Légion d'honneur. C'est une des pionnières du jeu d'aventure en France. On la connaît évidemment pour Adi. Elle a travaillé sur Adi. Elle a un parcours un petit peu particulier. Elle vient de l'aérospatiale. Elle est venue travailler chez Cocktail Vision à la fin des années 80 avec Roland Scian. Voilà, c'était l'équipe. C'était vraiment un des grands, grands studios du jeu d'aventure en France. On la connaît bien pour Goblins, qui était une série de point and click qui a fait beaucoup parler d'elle.
Et qui était intégrée dans les Adi d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai joué moi. C'était à débloquer si tu réussis. C'est bien tes maths, tu avais le droit de jouer à Goblins.
Wow. C'est intéressant parce qu'elle a travaillé à la fois sur le ludo-éducatif et sur le jeu d'aventure graphique, parce qu'on sait qu'il y a des parentés entre les deux. Il y a vraiment, comme Eric Viennot aussi qui avait eu ce parcours-là, donc c'est intéressant.
Ernest qui a 20 ans.
Oui, j'ai vu ça.
Qui a 20 ans cette semaine.
Non,
c'est rigolo. Tiens, en parlant de séquences vidéo intégrées, elle a aussi travaillé, Muriel Tramis, sur Urban Runner, qui était un jeu en full motion vidéo en France avec des acteurs, etc.
C'est très Patrick Corr comme jeu.
Et puis Mewilo aussi, qui était son premier jeu d'aventure donc en Martinique, parce qu'elle est de Martinique, donc elle avait aussi travaillé sur cette imagerie autour de la Martinique. Donc voilà, c'est génial de voir quelqu'un qui est vraiment une game designer, donc c'est important, qui était une des pionnières dans les années 80. Je trouve que c'est important de voir que des gens qui étaient là au début de la scène française de développement est récompensé aujourd'hui et salué. Et j'ai cru entendre qu'elle travaillait sur un remake de Mewilo, justement. Ça avait été annoncé il y a quelques mois, donc peut-être affaire à suivre. En tout cas, on va essayer de voir ça à la Paris Games Week dans les jours qui viennent.
Si on y va. Pardon. Corentin.
Oui, le week-end dernier, c'était la CitizenCon. Donc, des nouvelles de Star Citizen. Hein, on n'en prend plus trop ces derniers temps, je trouve. Mais il se trouve que là, ils ont montré une démo de leur nouvelle alpha qui devrait pas trop tarder à arriver dans les mains des backers ou de ceux qui ont acheté un vaisseau virtuel avec de l'argent bien réel. Donc, ce sera la 3.3. Et honnêtement, et je suis le premier à bitcher sur Star Citizen, soyons honnêtes, mais c'était plutôt impressionnant. Ok, Star Citizen, ça commence à ressembler à quelque chose, là, honnêtement. Donc, c'était une belle démo où on était dans une espèce de planète-ville. Donc, il y a toute une planète qui est gérée dans cette démo-là. Donc, on démarre dans une ville, puis ensuite, on commence à partir en vaisseau dans une mission avec des phases de FPS un peu molles. Hein. On va être un petit peu net là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt impressionnant, en tout cas d'un point de vue artistique. Techniquement, évidemment, il y avait des bugs, il y a eu un crash au tout début, ça a un peu fait jaser, mais ça, c'est du détail. Mais voilà, on a eu aussi des phases en véhicule dans le désert. C'était honnêtement, je dois dire, ça commence depuis un moment, mais ça fait plutôt envie. En parallèle de ça, ils ont présenté un trailer avec l'énorme cast qu'ils comptent mettre derrière Squadron 42, qui est donc le pendant FPS de Star Citizen, avec Mark Hamill, Gillian Anderson, vous savez, Scully dans X-Files. Il y a Gary Oldman aussi.
Oh là là,
Il y a d'autres noms que je n'ai pas notés, mais voilà, il y a pas mal de monde. Mais voilà, quand j'ai regardé cette démo, qui était tout à fait sympathique, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à la démo de Cyberpunk qu'on a vue aussi il y a quelques semaines. Et des deux, je sais pas laquelle m'a le plus impressionné. Et honnêtement, moi, j'ai juste compté à me dire, le problème, c'est que je suis à peu près sûr lequel des deux sortira en premier, vu comment les choses sont parties. Et sans vouloir être mauvaise langue, même si je suis très souvent mauvaise langue sur Star Citizen, mais... 6 ans de développement pour arriver à ce que.
Mais je pense que le seul truc maintenant, c'est le jeu, il va sortir un jour.
Oui.
On n'était pas sûr au début quand même.
Donc,
il sortira, c'est sûr. Ça sera peut-être même un jeu pas trop mal.
Voire même un chef-d'œuvre.
Voire même un bon jeu. Le problème, c'est que au bout de combien d'années de développement, il sortira avec des attentes exponentiellement forte, tu vois ce que je veux dire. Si le jeu met 10 ans à sortir et que le jeu vaut autant qu'un Cyberpunk qui aura eu un processus de développement classique,
C'est comme Telltale, en fait. J'ai envie de dire que, tu vois, le process même de sa création fait partie même de l'expérience. Tu vois, il y a une telle histoire autour de la production. Évidemment, il y aura le coup près qui tombera au moment de la sortie et d'une prise en main.
Non, parce que Star Citizen n'est pas un jeu qui s'arrête au moment de sa sortie. C'est juste, il y aura un moment où ils diront le jeu est sorti, mais le jeu continuera à évoluer.
Non, bien sûr.
Et je pense, a priori, que la communauté est plutôt prête à mettre du pognon.
Ah oui, alors faisons un petit point crowdfunding, puisque je suis retourné voir quand même. Donc le jeu, on est quand même à 200 millions de dollars.
C'est hallucinant. Même Steve Schaeffer à côté. C'est ouf.
Alors après, c'est pas juste de l'argent qui est mis, les gens achètent en effet des perks à l'intérieur du jeu, des propriétés, des vaisseaux.
Est-ce que c'est pas un record absolu même sur une plateforme?
Je sais pas, mais c'est possible.
Le budget estimé de GTA V est de 250 millions de dollars.
Ouais. Voilà, ouais, mais c'est beaucoup d'argent.
Non, mais je parlais
en termes de crowdfunding.
C'est
un record absolu.
C'est de tout.
C'est colossal. Toute catégorie. Oui.
D'ailleurs, après la sortie du trailer de Squadron 42, il y a eu 2 jours à 300 000 par jour. Six ans après le lancement du Kickstarter, c'est ouf.
C'est bien.
Et tous les jours qui ont précédé, c'était toujours steady à 20 000 dollars par jour. Ouais, c'est impressionnant. Il y a toujours une excitation, en tout cas, de cette part de cette base de fans, ce qui est une bonne nouvelle. Pour le projet, il en faut de l'argent de façon pour un truc comme ça.
Mais c'est une bonne nouvelle.
Je peux quand même pas m'empêcher de me dire que c'est quand même le processus de création de jeu le moins efficace d'un point de vue argent dépensé.
Moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est il y a un côté finalement assez sain. Les gens ils savent dans quoi ils mettent leur sous.
J'irais pas dire jusqu'à sain quand même.
C'est financé par les joueurs.
Il n'y avait pas de promesse de date on savait que c'était un projet.
Il y avait une roadmap, mais bon, elle a vite été...
Ah, voilà, c'était transparent.
Bon, en tout cas, on verra. Et puis, on verra peut-être dans 6 ans où on en est. Quoi.
Il faut quand même parler dans ces news d'intro. On va reparler de Red Dead Redemption une fois la manette en main. Dans quelques minutes dans cette émission. Mais il faut parler de ce grand papier, quelque peu hagiographique, il faut le dire, mais très intéressant en termes d'information, de The Vulture, gros papier sur le développement de Red Dead Redemption 2, avec des entretiens, des rencontres avec Dan Houser, donc le co-boss de Rockstar. Petite auto-promo au passage, le jour de la sortie, le 26 octobre, Libération publiera un entretien exclusif en France avec Dan Houser. Mais donc, c'est pas pour ça qu'on va en parler, parce que dans ce long papier de The Vulture, toujours effectivement très intéressant, il y a une citation de Dan Houser sur le volume de travail.
Crunch.
Et c'est assez rigolo. Enfin, on sent que dans la bouche de Dan Houser, c'est pour dire « Regardez comment on a bien travaillé ». Et il évoque plusieurs semaines en 2018... à plus de 100 heures
de
travail hebdomadaire.
On parle de la fin de production, quand on est vraiment...
Il parle
sur
de 2018,
derniers...
plusieurs semaines à plus de 100 heures de travail. Évidemment, l'article est long. Il y a des gens qui ont repéré surtout cette phrase. Il y a eu des... évidemment, c'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Parce que ça fait des années que ce crunch est condamné. C'est cette coutume pratiquement du monde du jeu vidéo de dire « Bon, on développe un jeu sur 18 mois, mais alors les 3 derniers mois, vous comptez
vous
pas... »
Vous prévoyez rien du tout.
Surtout, ne dormez pas chez vous. Quoi. Et que c'est une très mauvaise habitude. C'est très... c'est un scandale, en fait. Ce crunch time.
Ouais. C'est combattu, on va dire, par l'industrie qui va contre ça.
Combattu.
Par les salariés et par les syndicats de salariés, surtout.
C'est que Houser se complaît là-dedans, l'interview. En fait, c'est qu'il en fait même un argument.
Exactement.
Ça choque.
Il aurait dit.
On a morflé à la fin,
c'était vraiment compliqué.
Les mots étaient très mal.
S'il avait dit ça, on lui aurait dit Coco, t'es à la tête d'une des boîtes les plus puissantes du jeu vidéo au monde, donc vous êtes prié de vous arranger avant. Mais au moins, il n'y aurait pas eu ce côté.
Il y a eu ce côté, oui.
tu portes pas ça en bandoulière, quoi.
Voilà, c'est pas un argument marketing. Là... On a voté. Alors, rétro-pédalage, parce que rétro-pédalage, un ou deux jours plus tard.
Patch
de citation côté Kotaku, ou oui, non, mais 100 heures par semaine. C'est moi, et trois autres scénaristes.
Et l'équipe de scénaristes.
Le 4 scénaristes en tout, qui auraient pendant 3 semaines en 2018 bossé 100 heures par semaine.
Ça réduit tout de suite, ouais.
Sauf que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut pas prendre.
C'est à la base de.
Non, mais faut juste pas prendre les gens pour des teubés. Si à un moment, il a évoquer ça comme étant un argument marketing, regardez comment on s'est sacrifié pour ce jeu, ça veut dire que c'est aussi ce qu'ils demandent et c'est la réalité pour les salariés. Peut-être pas 100 heures. 100 heures, quand tu fais le calcul, c'est monumental.
C'est des conditions de travail. On parle d'ambiance, de pression, effectivement, sur
les salariés. Je veux dire, quand tu es salarié, tu peux être un salarié passionné vraiment par ton travail, parce que je pense qu'il y a des salariés passionnés par leur boulot à Rockstar, et ça doit être surtout des salariés passionnés par leur boulot. Il y a un contrat de travail, ça s'appelle. C'est le contrat de travail, c'est la relation entre un salarié et son employeur.
Aux États-Unis, c'est un peu compliqué, mais il y a des règles.
Et 100 heures par semaine, c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé physique, mentale des gens. Même 80, même 60 heures par semaine, c'est pas bien.
Non, mais
il faut rappeler ces choses-là.
C'est très bien qu'il ait été rappelé tout de suite là-dessus, que ça ait réagi. Je trouve que c'est très bien même que les réseaux sociaux soient emparés tout de suite de ça, en disant attention, que ça ne devienne pas un argument de communication. Connaissant les habitudes quand même de Rockstar, de jouer sur le côté incisif dans la com, jouer sur le côté un petit peu rentre-dedans. Attention, voilà, pas dépasser une certaine limite et de pas en faire un argument de com.
Mais c'est là que c'était à la fois, moi j'ai trouvé ça un petit peu sympa de voir en effet toute l'industrie, en tout cas du côté indé, qui se mobilisait pour expliquer que non, ce n'est pas bien, il faut pas mettre ça en avant. Nous de notre côté, on essaie de tout faire. Ça peut nous arriver, mais on fait vraiment tout pour que ça n'arrive pas.
Il faut chercher à l'éviter, voilà.
Et notamment il y a un des développeurs du jeu Minit dont on avait parlé dans Silence on joue, qui a dit si toi aussi t'as fait un jeu, il y a pas eu de crunch, tape dans tes mains et cite ton jeu. Grosso modo, et là, donc t'avais plein de mecs qui fait moi j'ai fait ce petit jeu, il n'y a pas eu de crunch, moi j'ai fait ce jeu, il n'y a pas eu de crunch.
Faut pas être naïf, bien sûr.
Voilà, mais ce qui m'énervait aussi, c'est que côté consommateur, c'est que pour contrebalancer, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, mais bon, mon jeu de cowboy quoi. Enfin, grosso modo,
peu importe la casse qu'il peut y avoir.
Grosso modo, le discours qu'on a pu entendre dans la bouche, y compris de certains journalistes qui disaient oui, mais pour avoir de la bonne qualité, il faut aussi beaucoup de travail. Et le problème, c'est qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir culturellement, y compris dans la tête des gens qui consomment le jeu vidéo.
Mais on voit aussi que, voilà, comme tu l'as dit, Patrick, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir une levée de bouclier qui n'existait pas ou peu avant. Et on se souvient des premières aussi, il y a maintenant peut-être 6, 7, 8 ans sur la place des femmes dans les jeux vidéo. Veut dire que ça commence à être des sujets importants. Et on a vu aussi le jeu vidéo évoluer. Pas assez vite, évidemment, mais le jeu vidéo commençait à évoluer suite à justement à ce que ces sujets deviennent des sujets, peut-être, mais
qui sont discutés. Ouais. Et
honnêtement, ça ne changera rien au chiffre de vente.
Non, mais bien sûr.
Le jeu va cartonner, c'est pas la question.
Évidemment que nous, on voit ça de notre œil avisé, informé, et on voit en effet nos cercles s'agiter sur ces questions-là, et c'est très bien. Moi, je suis très heureux de voir ça, mais honnêtement, ça touche personne d'autre.
Alors, je pense que ça touche Rockstar. Il y a Dan Houser himself qui a fait deux jours plus tard. Mm-hmm. Une communication, je veux dire, sur d'autres sujets, Rockstar, ils s'en foutent, veut dire qu'il y a eu un point de toucher. Ouais. Et juste pour dire que voilà, GTA V, c'est 6,5 milliards de chiffre d'affaires depuis la sortie. Je veux dire, Rockstar, c'est peut-être un des rares studios qui en plus choisit son calendrier, a les moyens. Je veux dire, peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont encore plus faire gaffe pour leur prochain jeu. Peut-être que, j'en sais rien. Peut-être.
Disons qu'il y a l'article de William Oduro dans Le Monde qui est sorti, et Ça n'a pas l'air d'être dans la philosophie de la boîte.
Ouais, il a enquêté sur les précédents développements. Il a
interrogé notamment Jason Schreier qui a écrit ce livre.
Qui travaille aussi dessus, a priori. Hein.
Je crois que c'est lui qui a écrit l'article d'ailleurs Réponse.
Ouais.
Et c'est expliqué assez clairement que les Hauser, c'est pas détente. Ils sont.
Il y a le bouquin Jacked qui était sorti, qui était traduit par Pix and Love, je crois, il y a quelques années. Et voilà, où pareil, tu as une peinture aussi.
Et d'ailleurs, les seuls endroits où c'était à peu près correct, les conditions de travail, c'était à Édimbourg, justement, parce que le droit du travail était un peu plus fort qu'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous laissez les industries faire, ils vont faire au plus efficace, au plus difficile.
Communiste.
Il faut un peu de régulation là-dedans. Non, mais c'est clair. Voilà.
Non, mais des garde-fous, ça peut être pas mal. Ouais.
Allez, il paraît qu'on a on doit parler de jeux vidéo en particulier aussi. Ouais, non, mais bon, le sujet. De toute façon, on reviendra sur ce sujet. Juste le rapide de la semaine dernière, juste avec Alan San qui nous dit alors comme à chaque fois qu'il est possible, je saute direct sur le Assassin's Creed. Série que j'aime beaucoup depuis le 2 avec des épisodes que je préférerais oublier comme Révélation, Libération, le Unity ou le 3. J'ai vraiment surkiffé le Origins et mon impression sur le Odyssey, mes impressions sur le Odyssey ne sont pas à son avantage. J'ai vraiment l'impression d'un 1.5 ou plutôt d'un Black Flag comparé au 3, mais pas aussi réussi. Concernant le gameplay, je suis déçu car je trouve qu'il est encore plus arcadifié. J'ai un gros sourcil avec certains ajouts que je trouve pas vraiment intéressants, comme la jauge qui fait que l'on a l'impression d'être dans un GTA et qu'on se tape 10 mercenaires lors d'une attaque de fort. J'aime vraiment pas cette feature. Les batailles de zone qui sont une bonne idée, mais se répète à chaque zone de map et ça devient chiant. Le système d'upgrade de stuff que je trouve complètement loupé par rapport à Origins. Origins proposait un upgrade à la Far Cry qui nous forçait un peu à chasser, mais pas trop, etc. etc. Alan San liste un peu tout ce qui ne va pas selon lui. Il finit quand même par « C'est un bon jeu. Le scénar est vraiment meilleur que Origins, mais pour le reste, je préfère vraiment le jeu précédent. » Voilà, petite impression sur Odyssey. C'est le moment donc de commencer. On va commencer par parler de réalité virtuelle et je crois qu'on l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises dans Silence on joue. Écoutons un peu de Transférence. I have so much to show you. Benjamin! Une belle ambiance, la joie de vivre. C'est festif. Hein. C'est festif. On sent le truc festif.
Ah ouais,
Transférence, on en avait entendu parler, E3 2017.
Il y a déjà 2017. Plus d'un an maintenant. Il est revenu à l'E3 2018. C'était très attendu parce que c'est Ubisoft qui travaille avec Spectre Vision. C'est la boîte de prod de l'acteur Elijah Wood. Donc il y avait vraiment une ambition d'apporter un jeu avec évidemment un caractère cinématographique en VR. Et puis moi, quand on me promet de la full motion vidéo mariée à la VR, évidemment, moi je réponds présent. Alors c'est vraiment une expérience. Hein. Moi je cautionne, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une expérience qui est plutôt ramassée. Hein, on va dire que moi je l'ai peut-être fait en 3 heures quelques.
Enfin, 3 heures de VR, c'est
oui, il faut y aller par petite dose. Non, il y a vraiment. Déjà, on est sur le haut de gamme, le haut du panier de la réalisation. C'est-à-dire qu'on a vraiment des graphismes très soignés, ce qu'on n'a pas toujours. Hein. Là aujourd'hui, je vais vous parler de 3 jeux VR que j'ai un peu sélectionné pour faire un point VR. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeux qui sont pas terribles, qui sont moches en VR. On a des fois même ça peut rendre malade d'avoir des graphismes pas bien fichus. Là, on est vraiment sur le haut du panier. C'est-à-dire qu'on a vraiment des textures très propres. On peut lire les petits messages à l'écran, les écriteaux, etc. Donc ça, c'est un vrai plus. On part dans un scénario assez tarabiscoté. En fait, on suit une histoire familiale avec un scientifique qui a travaillé sur l'idée de prendre les souvenirs et les intégrer dans un ordinateur, dans une interface. Et nous, on va se balader comme ça dans différents souvenirs. Donc on va passer d'un souvenir à l'autre comme ça. On va jouer avec différentes dimensions dans une quasi unité de lieu. Donc ça, déjà, c'est une particularité assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a le même endroit, mais qu'on va traverser dans différentes conditions, différentes ambiances. C'est, au niveau ambiance, c'est vraiment le point fort du jeu. C'est-à-dire qu'on a un sound design de fou, vraiment. Alors déjà, on est en VR, donc il y a une consistance des endroits. C'est pas un jeu à esbrouf. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui va te faire des jumpscares dans tous les sens pour te faire flipper. Non, il est plus dans une construire une ambiance, une atmosphère très particulière.
Précise avec... que moi, ça me fait plaisir parce que je hais les jumpscares en VR.
Il y en a quelques-uns.
Je trouve que les jumpscares en VR, c'est...
Alors très franchement,
je croyais que ça avait été interdit par le ministère de la Santé.
C'est
ça.
Depuis Resident Evil 7. Non, j'en ai eu quelques-uns. Très franchement, sur mes quelques heures de jeu, j'ai peut-être eu 2-3 moments vraiment de stress absolu parce qu'il y a des visions. Il se passe des choses, on a une vision perturbée avec des mémoires qui sont parfois pas complètes, donc il faut interagir avec des objets, etc. Donc on a parfois des apparitions glaçantes au détour d'un couloir. Il y a des petits moments, j'irai pas jusqu'à dire à la Silent Hills, je sais pas si vous vous rappelez la démo, comment ça s'appelait, Pity. On a des petits moments comme ça d'angoisse. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que j'y trouve déjà un scénario très tarabiscoté. C'est-à-dire qu'on doit s'y mettre. Il faut vraiment se mettre dedans pour saisir ce qui se passe. On n'est pas sur un jeu facile d'accès. On est sur du walking simulator. Hein. On peut dire qu'on est vraiment sur un jeu où on avance. Il faut vraiment s'accrocher pour bien saisir, mais c'est aussi la qualité, c'est-à-dire que c'est pas livré sur un plateau avec un jeu linéaire. Où il faut aussi se construire l'histoire.
On n'en a pas beaucoup entendu parler de ce
Non,
conférence.
Et c'est un peu dommage, mais c'est aussi un trait de beaucoup de jeux VR aujourd'hui, c'est que malheureusement c'est pas très très supporté, on va dire. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a une sorte de mélange entre du walking simulator, donc avec une narration très orientée sur la narration environnementale, avec beaucoup de choses à lire. On construit l'histoire soi-même, on comprend des choses peu à peu. Et puis, pour moi, un vrai héritage du point and click. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu où on se balade dans des endroits, où on va aller cliquer à droite, à gauche, et où on a des énigmes. Et j'ai trouvé qu'elles étaient bien fichues, ces petites énigmes. Elles sont pas très compliquées. C'est un objet qu'il faut trouver à quoi il va servir dans tel endroit. Alors, des fois, j'ai séché sur des trucs. J'avoue qu'il y a eu des moments où... Tout ça n'est pas toujours très clair. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'investir. Il faut, c'est pas toujours très, très bien expliqué. Mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi une sorte de mélange entre l'escape room, le point and click avec des objets à trouver, à les récupérer, etc. Puis des rencontres parfois glaçantes. Donc il y a une vraie atmosphère. Il y a un vrai cachet de réalisation. Après, il faut accrocher, je trouve, à un scénario qui n'est pas toujours très simple à suivre et il faut vraiment s'investir. Il est jouable hors VR, mais je trouve que son intérêt, c'est d'avoir le casque sur le nez parce que c'est ce qui vraiment lui donne un vrai cachet. Donc, une bonne surprise. Je crois qu'il est à 25€. Il y a une démo jouable, gratuite.
Et bah voilà.
Vous pouvez peut-être la faire, ça peut déjà donner une ambiance. En plus, c'est pas un extrait du jeu, donc ça met déjà, c'est une sorte de préquel, donc ça peut mettre déjà dans l'ambiance, puis vous voyez bien tout de suite si vous accrochez au concept et au design général du jeu.
Il y a des choses plus faciles d'accès, côté VR.
Oui, alors moi, le grand coup de cœur du moment, c'est Astrobot. Ça vient de sortir, ça a été réalisé par Sony Japon, par Nicolas Doucet notamment, son équipe. C'est les gens qui avaient fait le jeu avec les petits robots de la caméra, de la PlayStation 4.
Bien sûr.
Qui avait fait pas mal de suivi sur le casque VR.
Exactement, il était pionnier dessus, il a travaillé beaucoup dessus. Et alors Astrobot...
Playroom, je sais pas quoi là, Playroom
non, le Playroom, voilà, de la PS4. Gros coup de cœur, franchement, c'est génial. Si vous avez un casque VR, pour moi, c'est simple, il rentre directement dans le top 5 des jeux VR du moment.
Oh, cool.
Mais il est vraiment incontournable. Il m'a un petit peu évoqué Moss. Je vous avais parlé mois déjà avec la petite souris. Pour moi, il est un cran au-dessus. Alors, pas forcément en termes de réalisation, mais en termes de gameplay. C'est un jeu de plateforme en VR, mais qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on dirige avec son DualShock un petit robot et on est vraiment sur tous les poncifs d'un Mario. C'est-à-dire qu'on est sur un Mario avec des pièces à récupérer, d'autres robots à aller sauver, à trouver, qui sont cachés. On joue avec tous les codes de la VR, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bouger avec le casque, un peu comme Moss déjà, aller chercher dans un coin une pièce qu'on ne voit pas ou un petit personnage qu'on n'a pas vu. Ça joue vraiment là-dessus, mais alors c'est d'un confort de jeu. Je parlais donc de transférence, il faut parfois avoir le cœur bien accroché parce qu'on se balade quand même dans des environnements. Ouais. Déjà, c'est stressant. Et puis, on est quand même sur ces problématiques de gesticulation dans un environnement. Ça peut rendre malade certains, ça peut arriver. Moi, ça a été, mais bon, là, sur ce jeu-là, c'est impossible d'être malade.
Ouais, c'est bien.
Et en fait, mais dès les 10 premières secondes, tu le lances, t'as une banane, c'est coloré, ciel bleu, c'est joli. Et moi, en fait, j'avais eu ce fantasme à l'époque de Mario Odyssey lorsqu'il avait été annoncé. Il y avait des rumeurs que peut-être il y aurait de la VR dessus. Il y avait. Ça s'est pas fait. Mais là, on a ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un jeu de plateforme très joli, avec plein de trucs cachés. C'est-à-dire qu'on s'amuse à faire les niveaux, on y revient, parce qu'il y a des choses à débloquer, etc. C'est magnifique. Il est vraiment joli. Les textures sont vraiment très très bien. C'est un vrai plaisir de jeu. On peut pas être malade. Et pourtant, on a vraiment des passages assez vertigineux où avec son petit robot, on va le balancer dans les hauteurs. Donc il y a vraiment tout pour qu'on soit. On est soi-même des fois vraiment en hauteur par rapport à l'action. À aucun moment. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé. Je pense que Sony Japon a vraiment bossé là-dessus sur comment on rend pas malade les gens, comment on met en place la caméra. Donc on se déplace, mais c'est automatique. En fait, on suit le petit robot de façon complètement naturelle. Et encore une fois, c'est un très bon jeu de plateforme.
C'est Res Infinite où on n'était pas malade alors qu'il y avait plein de mouvements,
que ça bougeait en tous les sens.
Plein de choses, donc c'était pensé pour faire ça.
Et c'est là qu'on voit les jeux qui ont vraiment été pensés pour ça, qui s'adaptent. Et là, c'est flagrant. Pour moi, ce jeu, il faut le mettre dans tous les casques, il faut l'acheter. C'est vraiment un indispensable. Si vous avez un casque PSVR, il est vraiment incroyable. Puis il y a plein de trouvailles. On débloque des grappins à un moment avec la DualShock qui est vraiment mise en scène dans le jeu. Un vrai régal indispensable. Et puis, dernier titre VR, je finis mon tunnel de VR. Je vois Corentin qui est fatigué.
Parce que bon, un VR ça va, mais alors trois VR.
Et trois VR, attention, et je finis sur le troisième. Alors là, c'est plaisir coupable.
Et tu l'as préparé, celle-là ou c'est...
J'avais pensé tout à l'heure, mais je fais trop tard.
Je voyais qu'il ruminait depuis un petit moment, je le voyais. Allez, je finis sur le plaisir coupable du moment. Ça s'appelle Opération Warcade. C'est pour les inconsolables d'Operation Wolf et Operation Thunderbolt. Si je vous dis ces noms-là, ça vous dit quelque chose dans les années 80, des bornes d'arcade qui avaient été adaptées sur Amiga et sur d'autres machines, où on tirait sur des ennemis, un jeu militaire, on flinguait du méchant et du terroriste dans tous les sens. Et en fait, c'est une adaptation, on va dire, en VR de ces jeux-là. Donc, on se retrouve donc dans une salle d'arcade virtuelle, on a les bornes d'arcade devant soi, on lance la partie, et il y a un côté magique, c'est-à-dire qu'on est dans Operation Wolf ou Thunderbolt, c'est-à-dire qu'on est là, on tient les guns, on tire dans tous les sens. C'est très laid. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très... Non, mais il faut le dire. Les deux précédents jeux étaient vraiment le haut du panier. Là, on est vraiment sur le bas du panier graphiquement. C'est très, très moche. On dirait de la Nintendo 64. Par contre, il y a le fun, notamment quand on a connu, il y a un aspect nostalgique. Il y a vraiment ce fun de tirer sur plein d'ennemis, de flinguer des hélicoptères, des tanks. Il y a ça, il y a des petits trucs. On passe en vue interne d'un seul coup. Paf, on peut actionner des options. On se retrouve dans un char en plein milieu de l'action ou à piloter un jet pour lancer des bombes lors d'un niveau. C'est du n'importe quoi. Et voilà, quand on a cette fibre nostalgique de ces jeux, moi, que j'avais adoré à l'époque, ça fait le boulot. C'est très laid, mais c'est fun. Il vaut une vingtaine d'euros. Moi, j'ai eu la chance, je l'avais eu lors de promo à 10 euros. Je trouve que 10 euros, c'est bien. Peut-être attendre une promo. À 10 euros, moi, je ne regrette pas. Je m'amuse bien avec parce qu'il y a ce côté vraiment nostalgie. Et c'est vraiment, c'est pour les amoureux, les inconsolables d'Operation Wolf. Et en tout cas, c'est fun. Et moi, je recommande en promo si
Warcade.
Possible. Ouais, Warcade. Et c'est vraiment pour les grands nostalgiques de cette époque.
Merci, Patrick.
Mais de rien.
Franchement, c'est cool de faire un petit point VR de
plaisir,
temps en temps.
Avec plaisir.
Il faut en parler. Alors, ça sort le 26 octobre. Le 26 octobre, c'est la semaine prochaine, donc on n'en parlera pas la semaine prochaine. Petit point d'étape, la semaine prochaine, c'est les vacances, mais il y aura un Silence on Joue spécial entretien. On vous en parlera peut-être à la fin de l'émission, je ne sais pas. Bref, ça sort le 26 octobre, c'est évidemment Red Dead Redemption 2, chose qui fait qu'il n'y aura personne à la Paris Games Week, mais ce n'est pas grave.
Il sort en plein dedans.
De la Paris Games Week. Qui va aller à la Paris Games Week, franchement? Non, sérieusement. On en parlera donc longuement, je pense, la semaine suivante. Mais j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu en début de semaine et je vais vous en parler. On écoute un petit bout.
Ladies and gentlemen, this is a robbery.
Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes.
You'll never change. I know that.
All of you venerate savagery. And you will die savagely.
Get out here!
Alors, ne vous attendez pas à des exclusivités. Si j'y ai joué, c'est que j'ai joué à la session de 2 heures qui a été proposée.
Je pensais qu'il y avait joué 100 heures dans la semaine.
Non, c'est ça. La session de 2 heures que les gens qui sont suivis un petit peu ont sans doute déjà lu, entendu des choses à ce propos, vu que c'est la même session qui a été proposée à peu près tous les journalistes. Donc, Red Dead Redemption 2, je vais juste en parler rapidement parce que c'est vrai qu'on va en parler parler longuement après qu'on y aura joué vraiment. C'est juste pour dire qu'il y avait il y a un truc auquel je ne m'attendais pas, parce que bon, je ne suis pas forcément allé à reculons. J'étais très content de voir à quoi allait ressembler ce jeu manette en main. Mais il y a eu une sorte de sentiment, d'impression qui m'a sauté dessus et je ne m'y attendais pas. C'est waouh, ça m'a manqué. Enfin, il y a ce truc-là, ça fait 8 ans maintenant que Red Dead 1 est sorti, que Red Dead 1 était fini pour beaucoup d'entre nous. Et alors, j'étais pas revenu longtemps à l'époque des zombies, parce que je voulais pas, justement, j'avais eu du mal à revenir dans cet univers un peu changé avec des zombies. Et donc, j'avais mes souvenirs, j'avais vraiment une sorte de nostalgie un peu récurrente de Red Dead, mais bon. Il y a tellement de jeux qui sortent, on oublie un peu ça. Et au moment où ça arrive, au moment où tu montes sur ton cheval, au moment où tu te promènes juste là, dans ces paysages absolument dingues, ce design, cet environnement est absolument fou. Il y a juste ça, ça m'avait manqué. Je ne savais pas à quel point ça m'avait manqué et je suis resté là à profiter de ces quelques minutes, hein, parce que ça passe très très vite. Et voilà, s'il y a d'autres détails, j'ai pas rentré.
Ta session, enfin ton extrait, c'est le début du jeu ou t'étais en
pleine partie? C'est dans la première partie du jeu. D'accord. C'est pas le début du jeu, c'est dans les premières, peut-être la première dizaine d'heures, je sais pas très exactement où. Et juste pour finir, hein, c'était juste pour parler de ça. J'ai pas
un avant-goût,
hein, parce qu'on aura sans doute plein d'autres choses à dire. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que évidemment le monde ouvert est monstrueux, magnifique, tout ce qu'on veut, mais ce qu'on retient, c'est les détails. C'est ça la force de Red Dead Redemption 2, c'est les détails. C'est-à-dire qu'ils ont mis, le réalisme, évidemment, dans les paysages, évidemment, dans tout ce qu'on peut espérer d'un monde ouvert comme Red Dead Redemption 2. Mais ce qu'on retient, c'est ça, c'est les détails. Il y a des détails partout. Il y a une sorte de narration environnementale contextuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de gâchette d'action contextuelle. Alors, il faut penser à déséquiper son flingue, hein, parce que la gâchette d'action, quand tu as ton flingue en main, c'est tiré. Donc, on va déséquiper son flingue. Et en fonction de ce qu'on regarde et tout ça, il va y avoir, si c'est le cheval, c'est des actions particulières. Si c'est des passants, c'est des particuliers. Si c'est des marchands, c'est des...
Il y avait ça dans le premier, non, hein.
Non, pas à ce point-là. Et des détails. Moi, il y a un truc qui m'a... Mais j'en pouvais plus. Je ne regardais plus que ça à un moment. C'est-à-dire qu'il y a un petit passage de chasse où on va chasser un cerf et puis donc on va le dépecer. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des passages de dépeçage dans Red Dead Redemption 2. C'est encore plus réaliste. Hein, on va dire, on est bien dans le bon réalisme, tout ça. Et donc, on va transporter la carcasse du cerf pour la vendre au boucher. Ça va faire quelques dollars pour quelques dollars de plus. Et en fait, bah, quand on transporte la carcasse, on la transporte sur l'épaule avant de la larguer sur le cheval. Bah, franchement, la veste du héros, après, pendant les minutes, les dizaines de minutes
elle
qui ont suivi... Mais c'est d'un crade, Mais mec, t'as transporté la carcasse de cerf que tu viens d'abattre sur ton épaule, il faut assumer après. Mais tu vois, il y a ce truc, et c'est que des petits trucs comme ça, c'est que des petits détails comme
ça. Une vague de véganisme qui va en découler après.
Non mais il y a un truc qui est de l'ordre de la... Enfin, on est subjugué, on est vraiment fasciné par tous ces trucs-là, où on se dit juste... Où ça va s'arrêter. Il y a tellement d'autres choses à dire de ces quelques minutes de jeu, mais on en reparlera quand on ira vraiment jouer Red Dead Redemption 2, évidemment, le 26 octobre. C'est le moment de la chronique jeu de plateau de Jérémy Klitskin. Bonjour, Jérémy.
Salut, Erwan. Cette semaine, je vais parler d'un de mes coups de cœur de ces dernières années, Mystic Veil. Je vous préviens tout de suite, le jeu n'a pas été traduit en français, il est en anglais. Mais comme je l'ai vu disponible en ligne sur des sites comme Philibert, comme TrickTrack, Amazon, etc., je n'hésite pas. Mystic Veil est un jeu de deck building. C'est pas comme Magic, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon où vous allez acheter des boosters de cartes en boutique pour améliorer petit à petit votre deck. Non, là, toutes les cartes sont dans la boîte, vous démarrez avec un deck de base comme tous les autres joueurs, et vous aurez environ 45 minutes pour l'améliorer et gagner la partie. Un peu à la Dominion pour ceux qui connaissent. Et moi, j'adore ce jeu, tant sur le fond que sur la forme. On va invoquer des esprits, soigner des forêts, recruter des créatures extraordinaires, s'allier à des clans de druides pour sauver la nature et la vie. Et on est dans une vallée mystique, tout y est à la fois chelou et sublime. Le matériel du jeu est extrêmement fourni. Chaque joueur va recevoir une vingtaine de cartes qui sont glissées dans des protège-cartes, vous savez, ces pochettes en plastique. Les joueurs vont à leur tour découvrir une à une les cartes de leur deck. Attention parce que sur certaines de ces cartes figurent des arbres rouges. Si vous en découvrez trois, alors votre valet dépérira et vous devrez passer votre tour. Il y a donc un mécanisme de stop ou encore. Au centre de la table, vous trouverez des cartes disponibles à la vente que vous pourrez acheter avec de la mana. Chacune des cartes de votre deck que vous déciderez d'ouvrir augmentera votre mana pour ce tour. On devra décider s'il est judicieux de prendre le risque de ne finalement rien pouvoir acheter. Mais parlons surtout de la véritable innovation dans ce jeu. Les cartes sont divisées en trois étages. Celles qui sont disponibles au centre de la table sont transparentes. Un seul tiers de la carte est illustré, dans un cas il s'agira de la partie haute, dans d'autres de la partie centrale, ou de la partie basse de la carte. Et c'est là que la magie opère. Vous pourrez améliorer les cartes de votre deck en glissant les nouvelles dans les pochettes. Vous créerez des combinaisons de deux ou trois étages et construirez votre deck en fonction de votre stratégie à moyen ou long terme. Il n'y a pas énormément d'icônes et les règles sont assez courtes, mais il y a des dizaines de cartes différentes et les parties ne se ressemblent jamais. Le jeu est sorti il y a environ 2 ans et depuis chaque année sont disponibles des extensions avec de nouvelles cartes qu'on peut mélanger aux autres et qui, on adore ça, ne nécessitent pas l'apprentissage de nouvelles règles. Les illustrations sont magnifiques. C'est ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui. Le nom du jeu, Mystic Veil, celui de l'auteur, John D. Clare, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes environ. À partir de 14 ans, il faut lire l'anglais. C'est édité chez AEG et il est à la fois fun, addictif, innovant et très joli. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux dont personne ne remet en cause les qualités éducatives, sociales, cognitives et positives, les jeux de société. Bye bye!
Bye bye Jérémy, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu cette chronique parce que j'ai juste l'impression d'avoir un jeu de complètement fait pour moi.
On a touché tous tes kinks.
Ah ouais, non mais exactement quoi. Non mais c'est j'ai oh là là, c'est les Spire en jeu de plateau, merde. voilà, donc merci Jérémy qu'on retrouvera évidemment pas la semaine prochaine parce que c'est une émission spéciale entretien. Je l'ai déjà dit, mais forcément la semaine d'après c'est le moment de partir du côté de Nintendo, du côté de la Switch avec la nouvelle occurrence de Mario Party. Mario Party, on le sait, tu nous en as déjà parlé ici d'un précédent opus, je crois.
De Mario Party, moi,
oui,
ici
je crois. Je sais que tu aimes les Mario Party.
Surtout dans la backstory que je vais raconter, c'est étonnant que je parle de Mario Party.
Ah ouais,
c'est un peu compliqué, Mario Party. Alors moi, Mario Party, je vais être tout à fait franc, hein, c'est une énorme Madeleine de Proust. C'est un des jeux de mon enfance, de mon adolescence, en tout cas.
Ah oui, c'est vrai que oui. Bah oui.
Donc c'est quelque chose.
Il est jeune, l'ami.
C'est quelque chose. Et encore les jeux GameCube, hein, donc la deuxième génération de jeux Mario Party. Donc c'est vrai que j'amenais les copains chez moi et on jouait à Mario Party, on passait des après-midi entières à jouer à Mario Party. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. C'est une formule que je connais assez bien et pour cause, donc c'est une vieille formule, hein, elle date de 98 sur Nintendo 64. Et on parlait de jeu de plateau avec Jérémy, c'est un jeu de plateau avec des mini-jeux made in Nintendo. Donc c'est plutôt fait pour passer, voilà, c'est pas du Street Fighter quoi, c'est vraiment pour être chill, tranquille, c'est pas forcément le plus talentueux qui va gagner, parfois il y a beaucoup de chance. Bon enfant, même si une petite fierté à réussir à gagner Mario Party, et c'est vrai que faut pas se vexer quand on perd Mario Party parce qu'il y a quand même un énorme facteur chance qui existe. Donc Mario Party, il y a eu toute une série donc sur Nintendo 64, il y a eu les trois premiers. Le consensus veut que le 2 soit le meilleur tous épisodes confondus. Puis il y a une
GameCube du coup le 2, non, c'est ça?
Non, le 2 c'était sur Nintendo 64. Ouais, ils sont sortis tous les ans à peu près 1, 2, 3 sont sortis tous les ans à partir de 98. Puis ensuite une génération GameCube est arrivée à partir du 4 qui était pas mauvais hein. Donc 4 5 6 7 sur GameCube.
Ouais, ils ont enchaîné quand même.
Ouais, tous les 2 ans à peu près. Le 5 et le 6 sont particulièrement réussis. Alors moi je suis moins fan du 5, mais le 6 apportait vraiment des règles alternatives vraiment cool, ainsi que le jour nuit qui marchait très bien tous les 3 tours. Il y avait des règles qui changeaient, c'était cool. Et voilà, chaque plateau avait un concept, une grosse règle qui faisait que on pouvait vraiment mettre un peu plus de stratégie dans ce côté chance, alors que le 5 c'était beaucoup de la chance. Mmh. En bref, donc moi j'avais beaucoup aimé le 6. Après j'ai un peu lâché, alors pas à cause du 7 qui a priori restait dans cette même veine des Mario Party traditionnels. Donc en l'occurrence on est sur un plateau, 4 joueurs sont sur un plateau et doivent récupérer une étoile contre 20 pièces, et les mini-jeux permettent de gagner des pièces, et des événements arrivent si on tombe sur certaines cases et on lance un dé à chaque tour. Mais à partir du 8 qui était donc sur Wii, aïe, c'était le début de c'était le début de l'enfer, un peu le passage à vide de Mario Party, puisqu'ils ont un peu changé toutes les règles.
Alors que la Wii était tout indiquée pour faire rayonner la série, quoi. Elle était faite pour ça.
Donc Mario Party 9, Mario Party 10 ont vraiment changé les règles. Il y a eu quelques épisodes mobiles aussi, enfin mobile portable aussi, notamment sur 3DS et sur DS. Mais c'est devenu pas bon. Il y a notamment, ils ont mis en place un système en fait où les 4 joueurs n'étaient plus séparés sur le plateau, mais jouer ensemble dans un même véhicule un peu, et grosso modo c'est celui qui jetait le dé qui déplaçait tout le monde et qui récupérait des points. Enfin c'était pas bon, c'était vraiment pas bon. Ils ont voulu simplifier le jeu, le rendre plus accessible pour un public qui soi-disant n'était pas capable de gérer un jeu de loi, hein, typiquement. Et l'ont un peu cassé le jeu, alors qu'il y avait un bon concept à la base, ce concept de donc réussir à aller sur cette case avec une étoile, payer 20 pièces et récupérer une étoile. Et puis il y a eu Super Mario Party qui a été annoncé sur Switch, et là l'espoir renaît un peu pour ceux qui aiment les Mario Party, puisqu'on se rend compte que ils reviennent à l'ancienne recette, donc tous les espoirs étaient permis pour Super Mario Party, et on va dire que c'est mitigé. On retourne donc en effet sur cette vieille recette et ça fait plaisir. On retourne sur des plateaux, on jette des dés et on doit aller à l'étoile. En plus de ça, ils ont même rajouté, ils l'avaient déjà teasé, des éléments stratégiques supplémentaires, notamment en fonction du personnage que vous allez avoir, vous allez pouvoir choisir différents dés, et ça c'est cool. Donc avant les dés étaient de 1 à 10, maintenant c'est des dés classiques de 1 à 6, mais en fonction de votre personnage vous aurez à avoir un dé. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, si on joue Shy Guy, enfin le Mascasse, il aura un dé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un dé 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Donc on peut choisir, tiens, j'ai pas envie de prendre de risque, donc je vais jouer le dé Mascasse. Bowser, par exemple, il a deux faces où on ne bouge pas et on perd 3 pièces, une phase à 1. Puis une face, c'est 7, 8, 9, tu vois. Donc, c'est des gros chiffres. Voilà. Donc, en fait, ça permet de rajouter vraiment une notion stratégique. Quel est le dé qui va me plus permettre de maximiser mes chances de faire
ça? Un peu, quoi. Enfin, voilà. On donne une sorte de...
Moi, il y a le personnage Skullrex que j'utilise qui a 3 faces 1, 3 faces 6. Moi, je... Non, mais c'est super chouette.
Enfin, oui, c'est la roulette russe, quoi. Enfin,
c'est pas la roulette russe, parce qu'en fait, en fonction de la stratégie qu'on veut mettre en place, c'est genre, bon...
Et le 1 peut t'intéresser.
Bah voilà. Oui. Là, il y a. Statistiquement. À deux, trois cases, il y a des cas, je veux surtout pas tomber dessus parce que ça va remettre en cause tous mes plans. Donc, soit j'avance pas, soit j'avance très fort. Coup, donc, dans ce cas-là, tu utilises ton dé.
C'est intéressant ce côté tactique, mais il faut que tu joues quelqu'un qui soit d'accord avec ça. Enfin, il faut que tout le monde soit. Il faut que tous les joueurs soient partants sur ce côté. C'est pas de la triche, mais presque. Il y a un côté.
Non, parce que tout le monde choisit son.
Il faut que tout le monde assimile bien ce côté un peu tactique.
Mais en vrai, les circonstances sont tellement. En fait, ce qui est important, c'est le choix du dé, en fait. Ce qui est important, c'est le choix du dé à un moment donné. En fait, il n'y a pas de dé plus puissant que l'autre. Il y a des dés qui sont un peu plus différents. Donc finalement, ce qui va être important, c'est les circonstances. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail.
C'est un peu fourbe.
Moi, je trouve ça super bien. C'est une super idée. Le problème, et c'est un gros problème, c'est que rien n'est pensé, on va dire, pour ce nouveau format. C'est-à-dire que tout est un peu plus ramassé dans Super Mario Party. Les terrains sont plus petits, les étoiles coûtent moins cher, tous les mini-jeux rapportent des pièces, rapportent autant. Grosso modo, c'est rare qu'on arrive devant l'étoile et qu'on n'ait pas suffisamment de pièces pour la payer. Alors qu'avant, ça pouvait arriver. Et surtout, avant, c'était bien pensé, c'est-à-dire qu'un mini-jeu, ça rapportait 10 pièces. Ce qui est la moitié d'une étoile. C'est-à-dire que si t'as pas gagné au moins 2 mini-jeux ou si t'as pas suffisamment, si suffisamment de tours ne sont pas passés, tu pouvais pas avoir assez de pièces pour payer une étoile. Là, c'est que 10 pièces. Et du coup, tout est un peu plus condensé. Ça n'arrive jamais d'arriver devant l'étoile et dire « Désolé, t'as pas assez de pièces. » On dépense un peu plus ses pièces. Et surtout, quand on arrive dans les derniers tours de jeu, en général, les cases bleues et rouges doublent. C'est-à-dire que les cases bleues, normalement, vous donnent 3 pièces. Dans les derniers tours, ils vous en donnent 6. 6 pièces, c'est plus que la moitié d'une étoile. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et comme tous les terrains sont un peu ramassés, on passe très souvent devant l'étoile. Tout le monde passe très souvent. Ce qui fait que ça fait un peu une mêlée. Tout le monde peut récupérer des étoiles un peu tout le temps. Alors qu'avant, c'était vraiment, il y avait un jeu de stratégie. On utilisait des objets pour échanger nos places. Au dernier moment, le mec est à 2 cases de choper l'étoile et hop, tu utilises un tuyau et tu échanges sa place et tu joues à sa place et tu piques son étoile sous son nez. Et ce qui crée des dramas auprès de tes amis. Là, ça arrive beaucoup moins parce qu'on en a beaucoup moins besoin. On récupère des objets pour aller directement à l'étoile, mais très facilement. Enfin,
C'est dommage, ça m'a l'air d'être un sous-réglage finalement, ouais. qui est un peu raté et qui perturbe l'expérience de jeu.
C'est-à-dire que je suis pas du tout contre l'idée de tout un petit peu condenser, c'est une bonne idée, mais, et c'est pour ça d'ailleurs que les dés vont plus que de 1 à 6, mais il y a plein d'autres moyens de faire encore des gros dés. On récupère notamment des alliés, on peut tomber sur des cases et on va récupérer un ami. Donc un autre personnage qui n'a pas été sélectionné et qui va nous prêter son dé. Donc non seulement on aura un choix de dé plus grand, parce qu'on pourra choisir entre le dé normal et le dé de son partenaire et son propre dé spécial, mais en plus ce personnage va lancer un micro dé en même temps que nous et va nous donner un bonus à chaque tour. Et même il y a certains mini-jeux où il va nous accompagner dans un mini-jeu, donc c'est un vrai avantage. Mais il y a des moyens quand même d'avancer plus vite, en plus des objets, les champignons et ce genre de choses. Oui.
Une question technique, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était ce jeu qui devait permettre de poser deux Switch l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est un gadget, ça marche, tu l'as essayé ou pas?
Alors j'ai pas pu l'essayer parce que
il faut deux Switch
avec deux jeux.
Ouais. Donc, deux jeux.
Okay, c'est un peu compliqué. Après ça reste un jeu parmi d'autres. Il y a plein de petits jeux qui sont plus ou moins sympathiques et qui peuvent se jouer en mettant en effet les Switch côte à côte. Ça reste un mode très à côté dans le jeu.
C'est pas le cœur du jeu.
Non, par contre je vais quand même parler de ce qui marche bien dans ce Mario Party. C'est les mini-jeux. Je trouve que les mini-jeux sont d'extrêmement bonne qualité. Honnêtement, individuellement.
C'est quand même le cœur du truc là.
C'est le cœur du truc. Alors, moi j'aurais préféré qu'ils aient de moins bons mini-jeux et un meilleur système de jeu global le mode party. Mais bref, il faut quand même reconnaître que il y a très peu de mauvais mini-jeux dans ce Mario Party. Alors je vais en citer quelques-uns. Alors moi, mon préféré de tous, c'est un mini-jeu où grosso modo on est sur une esplanade et il y a un personnage qui va venir prendre une photo à un moment donné, mais on ne sait pas d'où il va arriver. Et le but, c'est d'être sur la photo. Et on peut mettre des coups de poing aux autres personnages. Et le but, c'est de se frayer un chemin. Il fait non, c'est moi sur la photo. Et à un moment donné, la photo est prise. Et celui qui est en premier plan va gagner 3 points, 2 points, 1 point en fonction de quel plan on est. C'est super drôle. Et en plus, à chaque fois, on a la photo qui apparaît.
Trop bien.
Et donc les personnages sont en train de se mettre un coup de poing pour être devant la photo. C'est vraiment rigolo. Y a des jeux du style, on est tous dans un train, il faut compter le nombre de Toad qui sont. Mais ils bougent tous, c'est insupportable et tout, donc c'est celui qui est le plus proche. Moi j'aime bien ce genre de jeu là. Il y a un mini-jeu très marrant avec le motion control. Il y a quelques jeux avec le motion control. Bon, ils sont pas tous égaux, mais il y en a un que j'ai bien aimé, c'est celui où on doit cuire un morceau de viande. Donc il y a un cube de viande et on doit le cuire également sur les 6 côtés. Donc le but c'est vraiment de réussir à être en mode « Allez, passe à gauche !» et tout, et c'est vraiment sympa. Enfin, il y a vraiment de bonnes idées de jeu. Donc voilà, voilà, c'était que 3 exemples, mais il y a vraiment beaucoup de mini-jeux. Moi, j'ai fait, c'est quand même de bons mini-jeux. Mmh. Beaucoup de mini-jeux aussi, on doit trouver du premier coup d'œil quelle est la surface la plus grande. Alors, t'as le temps que tu veux pour le faire. Sauf que si quelqu'un l'a choisi avant toi, tu peux plus la sélectionner. Donc, c'est au plus rapide, mais des fois, tu te dis, ah oui, c'est celle-là. Attends, tu m'y réfléchis. Non, c'était pas celle-là, je me suis fait avoir. Enfin, voilà,
on le prend ou pas alors c'est...
Alors. c'est compliqué. Il est quand même assez riche, c'est-à-dire que là je parle du mode partie, il y a aussi un mode en équipe avec tout un autre système de plateau où on se déplace beaucoup plus librement, qui est beaucoup plus stratégique, mais qui est aussi un peu plus mou je trouve. Il y a aussi un mode de rythme, ça ressemble vraiment à du Rhythm Tengoku, du Rhythm Paradise, tu sais. Il y a vraiment un gros mini-jeu comme ça. Il y a aussi des modes coopératifs où on joue à 4 ensemble pour faire un score maximal, et il y a un mode online qui permet de jouer au mini-jeu. Et moi je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire le mode d'ailleurs normal, classique, online. Pourquoi vous ne faites pas ça Nintendo? Et tous les streamers ne rêvent que de jouer avec leurs amis à Mario Party en ligne. Mais voilà, il est quand même assez... Il y a pas mal de contenu quand même dans ce Mario Party. Même s'il y a assez peu finalement de plateaux, il n'y a que 4 plateaux, alors que d'habitude il y en a 5 dans les Mario Party, c'est un peu chiche. Et le jeu
est... Il y a combien de mini-jeux, tu as dit ?
80. Il y a 80 mini-jeux. Ouais, ouais, c'est honnête. C'est, ouais. Je dirais que c'est... Moi, j'attendrais Super Mario Party 2. Parce que s'il reste sur
dans
cette...
Dans deux ans.
C'est-à-dire que là, on a une belle base. On a une belle base sur laquelle ils vont redémarrer. Mario Party 4, à l'époque, sur GameCube, était aussi un peu mou, un peu...
Transition de plateforme.
Il était solide, mais il était un peu... il manque un truc.
Et t'as ce sentiment sur celui-là.
J'ai exactement le même sentiment sur celui-là. C'est-à-dire qu'il manque des calibrages, il manque des règles en plus, il manque des... il manque des choses, mais...
À part qu'on est sur Switch, donc ça peut s'enrichir peut-être par du DLC, des choses comme ça, j'en sais rien.
Non, c'est possible.
Là,
le problème, c'est que c'est vraiment au cœur du jeu même qu'il y a un problème, je pense. C'est vraiment sur le calibrage du mode party, ce qui fait que je suis un peu frustré par Super Mario Party, mais je suis très content de retrouver l'ancienne recette aussi. Donc je suis un petit peu entre deux eaux. Donc je le conseillerais peut-être aux gens qui sont un peu nostalgiques de cette période où les Mario Party étaient bons, parce que en plus, il est assez simple. C'est-à-dire qu'avant, il fallait une GameCube, il fallait quatre manettes.
Ne dis pas le mal de la GameCube.
J'adore la
GameCube. Moi-même, je parlais de ses graphismes tout à l'heure. Mais
tu parlais de la N64 tout à l'heure. Mais
oui, pardon, de la N64.
Là, vraiment, il suffit qu'un autre pote ait une Switch pour qu'on puisse utiliser les Joy-Con. D'ailleurs, on est obligé d'utiliser les Joy-Con. Alors, ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai des manettes pro chez moi. Je ne peux pas l'utiliser pour jouer à Mario Party. Ça, par contre, ça n'a aucun sens.
Parce que c'est le principe d'égalité.
Ah, oui, peut-être, oui, sûrement.
Alors
j'ai une idée, hein, on oublie les jeux avec gyroscope et puis on joue avec des manettes normales à des mini-jeux normaux. Voilà, parce qu'en plus, c'est pas les meilleurs mini-jeux, les jeux à gyroscope. Mais voilà, donc il suffit d'avoir un ami qui a une Switch, même sans le jeu, il ramène sa Switch, on a quatre manettes et on peut jouer immédiatement à Mario Party. Ça coûte 50€, c'est donc sur Switch. Je recommande à moitié. Si vous le trouvez d'occasion, ce qui n'arrivera jamais parce que c'est un jeu Nintendo, vous pouvez. Sinon, moi, je serais curieux de voir les DLC et voir s'il y a un deuxième épisode. On a une belle base quand même. Ah, je suis frustré par ce jeu.
Mario Party sur la Switch, évidemment. On va terminer cette émission avec est-ce qu'on appelle ça un petit jeu ? Je sais pas. En tout cas, avec My Memory of Us. We played and laughed and ate together. We had no idea what lay just around the corner. Robot soldiers, unyielding, vicious. Completely emotionless, they went about their mindless task. Everything was changing for the worse, and it was all down to the Robot King. People stared at the red folk. They started treating them differently. Avez-vous reconnu cette voix qui est quand même marquante,
elle me parle,
Patrick Stewart.
Mais oui.
Patrick Stewart.
Je sais pas de qui vous parlez.
D'accord,
très bien.
Star Trek, X-Men. Enfin voilà. Donc, c'est...
Écoutez, ma jeunesse, c'était Mario Party. Hein, je rappelle.
My Memory of Us du studio polonais Juggler Games. My Memory of Us qui va nous raconter l'histoire du ghetto de Varsovie. Donc un petit rappel historique, hein, c'est le premier jour de septembre 1939 où la Wehrmacht a envahi la Pologne. Et donc il y a quand même énormément, il y a beaucoup de juifs en Pologne, ils sont je crois 3 millions. Et c'est à partir de novembre 1940, le ghetto juif le plus important des territoires occupés au cours de la Seconde Guerre mondiale à Varsovie. Alors, qu'est-ce que raconte My Memory of Us ? My Memory of Us, c'est l'histoire de deux gamins. Donc, le jeu commence où on contrôle une gamine de nos jours qui va dans une librairie et qui tombe sur un livre de photos. Et en fait, c'est le livre de photos du vieux monsieur qui tient la librairie. Et dans ces photos, il y a les souvenirs du monsieur. Et en fait, donc, il va raconter cette histoire à cette gamine. Mais alors, dans une forme de conte de fées. C'est-à-dire, ça va pas être, je vais te raconter les Waffen-SS et la déportation et ça. Mais je vais te raconter une histoire de robots. Une histoire d'une ville envahie par des robots. Alors, les robots sont un peu idiots, avec des tuyaux de vapeur. Enfin, c'est un côté...
grotesque.
Ouais, un côté steampunk, un peu... Mais un steampunk grotesque, un steampunk cartoon, en fait. Et donc, on va parcourir cette histoire de robots, un peu ce conte de fées, avec des passages qu'on reconnaît, hein, parce qu'à la place de... il y a des personnes dans la ville qui vont être peintes en rouge, qu'on va distinguer.
C'est pas ultra subtil.
On n'est pas dans la subtilité, mais on est dans le conte de fées, dans la métaphore qui représente très clairement ce qui s'est passé. On n'est pas...
On est dans la parabole, quoi. quoi.
Voilà, on est, complètement, on n'est pas là à chercher.
Visuellement, on est sur du cachet. Comment
visuellement, on est sur du cartoon. On est vraiment sur du cartoon noir et blanc avec quelques couleurs qui ressortent. Et on est sur un jeu de scrolling horizontal, vraiment 2D, 3D, 2,5D comme ça, et où on va avancer à chaque fois avec une destination et puis des petites phases d'infiltration, des petits puzzles, beaucoup de petits puzzles. Voilà, c'est une
La
sorte de puzzle
Alpha,
game.
Un peu, on en parlait, non ? C'est un peu on est
plus proche. En fait, alors les gamins, ils ont chaque gamin a quatre actions. Alors au-delà de avancer, reculer, il y a quatre actions. C'est tenir la main, prendre la main de l'autre joueur. En fait, on alterne entre on joue un petit garçon ou une fille un peu plus âgée. Donc on va prendre la main, soit on va switcher de personnage. Et chaque enfant a deux actions contextuelles qui va être pour le petit garçon de se faire discret. Et de pouvoir éblouir avec un petit miroir s'il y a une source de lumière, éblouir un autre personnage. Et pour la petite fille, c'est de soit courir vite ou d'utiliser un petit lance-pierre.
Donc tu swaps selon ce qui
se passe. Et on swap. Et donc il y a différents types de puzzles en fait pour passer. Et c'est plutôt très très bien foutu. Évidemment, la trame scénaristique est totalement tragique, hein, même si en fait. C'est ça ce que je disais, c'est évidemment c'est évident, le parallèle, la parabole est évidente. Du coup, en fait, quand tu as des petits détails, genre les robots, les méchants robots qui se mettent à peindre certaines personnes en rouge, le fait qu'on sache très exactement à quoi ça fait référence, ouais. Bah, ça donne cette ambiance assez unique parce qu'on est dans un conte de fées, on est dans quelque chose qui n'est pas très...
Il n'est pas démonstratif, pas, quoi. C'est pas
voilà,
démonstratif.
On n'est pas, c'est pas sur un environnement où on a envie de pleurer et tout ça, parce que il y a toujours un petit truc, il y a toujours un petit jeu. Les gamins, ils ont toujours le sourire. C'est assez important, bon, sauf quand il leur arrive vraiment, ils peuvent pleurer, mais quand tu les contrôles, ils ont toujours le sourire quand ils courent dans la rue et tout ça. Et donc, il y a cette ambiance de conte de fées où on connaît le. Enfin, pas de conte de fées, de conte, mais où on sait à quoi ça fait référence. Et voilà, et le gameplay est très. Bien pensé, je sais pas, j'ai jamais. Des fois, c'est pas facile parce qu'il faut switcher entre les personnages, parce que il faut faire passer un obstacle à un personnage, prendre le contrôle de l'autre, lui faire passer l'obstacle, switcher pour débloquer un mécanisme avec le lance-pierre ou aveugler un personnage. Voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué. On peut faire du die and retry et tout ça. Il y a juste un petit point qui m'a un peu agacé à quelques moments, c'est des points de sauvegarde un peu lointains. Parfois, c'est-à-dire qu'on a compris les mécanismes, on sait ce qu'on doit faire, on a compris ce qu'on doit faire.
Il faut refaire.
Parce qu'on n'a pas, on s'est pas caché au bon moment, ou alors on s'est relevé trop tôt, on se fait capturer, et puis du coup il faut refaire toute la séquence. C'est pas une hyper longue séquence,
non,
ça va être 3, 4, 5 minutes de séquence, mais tu l'as déjà fait deux fois, et tu sais comment on le fait, t'as pas trop envie de points de sauvegarde, mais bon.
C'est important dans un jeu. Hein.
C'est important dans un jeu. Là, pour le coup, on est sur le détail parce qu'il est vraiment, je trouve, très sympa. Un peu dans le type d'ambiance, on se souvient de Mémoire de la Grande Guerre, hein, de Soldats Inconnus, d'Ubisoft. Voilà, on est un peu sur ce même genre de jeu qui... avec un style cartoon, réussissent à retranscrire une ambiance historique, une gravité historique de réelle.
Et faire passer un message. Enfin,
c'est-à-dire, c'est pas forcément. C'est faire passer une mémoire.
Ouais.
C'est faire passer le souvenir d'événements passés qu'il ne faut pas oublier. Tu vois, c'est pas, y a pas un grand message. C'est juste, voilà, il s'est passé ça. Et il faut le raconter.
En image.
Il faut le raconter comme vous voulez. Il faut raconter ce qui s'est passé. Et voilà, My Memory of Us. Alors moi, j'y ai joué sur PC. Je suis absolument désolé. Je ne sais même pas s'il est sorti sur console, mais il irait très bien. Il n'y a pas de raison.
Il pourrait, quoi.
Il n'y a pas de raison. Alors peut-être
peut
regarder.
Le faire.
Voilà, il peut le faire. Regardez, c'est Juggler Games qui est donc un studio polonais. Voilà, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et chers amis, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Moi, entre deux nanars, parce que ça, je vous ai pas mal parlé de nanars depuis quelques semaines, je vais au cinéma et j'ai vu un film qui m'a plu, moi, une peinture sociale. Donc, on n'est pas du tout dans le nanar spatial avec des zombies et des trucs comme ça. Ça s'appelle Nos Batailles, un film de Guillaume Senez, avec Romain Duris. Vraiment une peinture sociale, en fait. On suit Duris... père de deux enfants qui travaille dans un grand revendeur en ligne qui n'est pas cité, mais on devine un peu avec des grands autres entrepôts, etc. Et ce qui se passe, c'est que sa femme disparaît du jour au lendemain subitement. Donc lui doit gérer le quotidien avec ses deux enfants, il rame comme c'est pas possible. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà il y a une peinture sociale, c'est-à-dire que il y a vraiment son quotidien, comment on gère, etc. Et puis en filigrane, il y a cette disparition inquiétante qui reste toujours un peu qui hante le film. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? En tout cas, voilà, je trouve que Duris, j'aime beaucoup Duris, hein, je trouve que c'est un acteur qui est notamment dans ce genre de film où il sort un peu de son image de pas de dandy parisien, mais un peu, et là je
un petit peu quand même.
Et justement, je trouve que dans ce film, il montre qu'il en a sous le pied lorsqu'il il s'écarte un petit peu de ces rôles là et que enfin il est vraiment touchant dans ce film, et c'est un film
s'appelle
Nos Batailles, et c'est un film qui a une vraie humanité, un film social que ça sert aussi à ça, le cinéma, c'est de dépeindre parfois des trajectoires comme ça, très humaines, très simples, et qui en même temps traversent des événements intéressants à suivre.
Corentin?
J'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison de Doctor Who, qui était particulièrement attendu, puisqu'on est à l'aune d'une nouvelle docteur, d'un nouveau docteur. Donc en l'occurrence, c'est pour la première fois dans l'histoire de cette longue série qui date des années 50, voire
Peter
même...
Peter Cushing, qu'est-ce qu'il en dirait, Peter Cushing, de tout ça?
Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est après Peter Capaldi et son accent écossais. C'était pas du tout un accent écossais.
Je sais pas du tout la chercher. Ah non, les accents, ça recommence.
Ça recommence, c'est terrible. Là, c'est Jodie Whittaker qui a repris le flambeau, et on la connaît puisqu'elle a joué dans Broadchurch, chose qui est un peu rigolote puisqu'elle joue avec David Tennant, qui a joué un docteur aussi, qui a joué le 10e docteur. Donc il s'agit du 13e docteur pour cette 11e saison qui a marqué un renouveau, non seulement parce que c'est une femme qui joue le docteur, mais aussi parce que Moffat, tu sors, Stephen Moffat, donc qui est qui était le showrunner depuis je sais plus, trop longtemps en tout cas, qui sort enfin. Ah, mon Dieu, parce que les épisodes de l'ère Moffat, comment dire, c'était toujours des boîtes magiques, c'est genre oh là là, la situation est désespérée, mais heureusement on croit au pouvoir de l'amour et de l'amitié, et du coup on s'en sort, ça suffit. Et donc là, on a eu le premier épisode qui a été diffusé jeudi dernier, donc ça sera jeudi, il y a deux semaines, pour les gens qui écouteront le podcast, et c'est bien, parce qu'il y a eu un renouveau aussi sur la mise en scène, sur la réalisation, on a des plans plus serrés, on a une narration qui est un peu plus moderne, on va dire. On va voir pour les épisodes qui se passent dans l'espace, parce que là pour l'instant j'ai vu que le premier épisode qui se passe dans la banlieue de Londres, je crois, ou en tout cas en Angleterre, mais là j'ai l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus sympa à regarder, d'un peu plus modernisé, y compris d'un point de vue graphique. Et ce qui est super cool, c'est que France 4 a chopé les droits et qu'on n'a pas besoin de télécharger sur des sites pas bien. On peut regarder Doctor Who de manière légale et peu de temps après.
C'est l'accent, hein. Tu vois,
parce
ça arrive à un moment.
C'est diffusé le dimanche et ça sort. Et c'est diffusé le dimanche au Royaume-Uni par la BBC, et c'est diffusé le jeudi suivant en France quand même. On peut le regarder en VOD sur Plus, donc c'est sur France 4. Ça fait plaisir, hein, les gens qui veulent fermer France 4. Vous êtes rien que des méchants. Donc voilà, Doctor Who, c'est le jeudi sur France 4. Faites-vous plaisir, pour l'instant c'est de la bonne. J'ai hâte de voir le deuxième épisode. Là, c'est ce soir où on l'enregistre. Pour les autres, il y aura déjà deux épisodes de disponibles.
Eh bien moi, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de mon travail. Quand je ne joue pas, je bosse. Non, c'est juste pour vous dire. En fait, c'est parce que c'est. J'ai sorti ce jeudi, là, c'était aujourd'hui, trois pages dans Libération sur une enquête. Alors, ça m'a pas pris, c'est pas une enquête de 8 mois, mais c'est une enquête que je traîne depuis 8 mois, où je me renseigne, je rencontre des gens, je fais des interviews et tout ça. Je suis pas à temps plein, hein, c'est pas 8 mois de travail.
J'ai tout arrêté pendant 8 mois.
Mais je me suis dit, à un moment, parce qu'il y avait des indices, parce qu'il y avait des conférences, il y avait des choses comme ça, et puis parce qu'il y avait Demi Sassabis, aussi, le boss de DeepMind, qui est un docteur en neurosciences. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais on sait que l'intelligence artificielle, elle est plus conne que nous et qu'elle est encore très très loin d'avoir l'intelligence humaine. Mais on sait aussi que pour s'améliorer, les chercheurs en intelligence artificielle, ils regardent comment fonctionne le cerveau neurone par neurone. En fait, ils essayent de voir les algorithmes de la cognition et ce genre de choses pour pouvoir améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle. Et je savais dans un autre sens que pour regarder ce qui se passe dans le cerveau, quoi de mieux que l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire, avec les images de l'IRM fonctionnel, on les passe dans une intelligence artificielle et notamment, on commence à être capable, avec des entraînements spécifiques, etc., de savoir ce que regardent les gens.
La lobotomie, ça marche bien aussi.
Par exemple, ce qui est fou, c'est que il y a un chercheur japonais qui a en octobre 2017, je crois, qui a présenté une recherche où juste en regardant l'IRM fonctionnel et en passant sur un réseau de neurones, il était capable de reconstituer l'image que regardait la personne.
Ah, c'est chouette. Donc, c'est-à-dire de comprendre ce que regardait la personne ou de reconstituer l'image.
Alors, elle est floue. Bien sûr, elle n'est pas nette, mais elle est là. Donc en fait, il y avait cette relation entre l'intelligence...
Parce qu'on parle pas des yeux, on parle
de l'IRM fonctionnel, monsieur. Fou.
Mais il y a pire que ça.
Et de la magnéto-encéphalographie.
J'avais vu dans le même genre, des gens qui réussissaient à reconstituer, mais pareil, en très très flou, les rêves.
C'était exactement ce genre de choses. Et donc, je voulais savoir c'est quoi les liens entre les neurosciences et les chercheurs, la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Et j'ai fini, le papier est sorti, je suis content, je vais pouvoir passer à autre chose. Et donc, c'est lisible sur libération.fr. C'est fini pour cette semaine. À la réalisation, c'était Quentin Bresson de binge.audio. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc la semaine prochaine, émission spéciale entretien, parce qu'on est en vacances aussi. Là, elle sera enregistrée avant. Et puis, on revient la semaine d'après, peut-être, pour parler d'un très gros jeu sorti le 26 octobre. À très bientôt. Merci à tous les deux. Ciao.